30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, le Castres Olympique. Le CO a été fondé en 1906. Castres, Toulouse et Clermont sont dans l'élite sans interruption depuis l'ère du professionnalisme en 1995. En 1913, Castres recrute son premier international français, l'ouvreur, centre ou ailier Marcel Burguin, venant du Racing. Il a été capitaine du 15 de France en 1914 contre l'Angleterre. Il meurt lors de la guerre de 1914. L'équipe de rugby du Castres Olympique est décimée au cours du conflit, dont les frères Nicolo. Durant l'année 1934, l'abbé Pistre, né en 1900 à Mazamé, décédé en 1981, ancien joueur du SC Albi, devient dirigeant et entraîneur de Castres. On le retrouve une saison, en 1975, sur la première chaîne de télévision pour commenter à 74 ans, avec son accent rocailleux, les matchs de rugby aux côtés de Georges Decaune. Une concurrence face au duo Coudeur Albaladejo sur l'autre chaîne de télévision. Comme l'a écrit Henri Garcia, auteur de la fabuleuse histoire du rugby, l'abbé Pistre découvrit que le rugby s'accommodait merveilleusement des textes des saints évangiles, car au cœur d'une mêlée, il vaut toujours mieux donner que recevoir. Castres a été champion de France à 5 reprises, 1949, 1950, 1993, 2013 et 2018. En 1949, il aura fallu 2 matchs pour départager Castres et Mont-de-Marsan. Le 15 mai, égalité 3-3 après prolongation et sous une pluie continue. Et le 22 mai, victoire de Castres 14-3. Le CO décroche son premier titre grâce notamment à une transformation de son capitaine Jean-Pierre Antoine, deuxième ligne du CO de 1947 à 1956, et qui mourra 7 ans plus tard à l'âge de 35 ans d'une blessure à la tête reçue au cours d'un match contre Montrégeau dans ce même stade des Ponts-Jumeaux. Le stade de Castres porte son nom depuis 1957. Il sera débaptisé en 2017 en stade Pierre Fabre, un hommage à Pierre Fabre, pharmacien et botaniste castré, fondateur en 1962 du grand groupe pharmaceutique français Laboratoire Pierre Fabre, et propriétaire du CO depuis 1988. Au décès de Pierre Fabre en 2013, c'est un proche, Pierre-Yves Révol, qui prend les commandes du club après une première présidence de 1989 à 2008. En 1950, Castres effectue le doublé. Il bat en finale le Racing 11-8. Le jeu académique du CO, étiqueté la machine du championnat, prend le pas sur le style plus débridé du club parisien. Côté Racing, c'est bien une gazelle qui crève l'écran de cette finale. Il s'agit d'Alain Ponteau, champion de France du 100 mètres un an plus tôt, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de 1948 à Londres et de nouveau en 1952 à Helsinki. Durant ces années fastes, Pierre Maffre, industriel à Castres, a contribué au succès du club dont il est le mécène. Le président de l'époque, Roger Gabarou, dont le fils Jean-Pierre sera député maire de Castres, a été l'homme de confiance de Pierre Maffre. En 1993, le Néo-Zélandais Gary Whetton, sacré champion du monde avec les All Blacks en 1987, est l'auteur de l'essai polémique mais victorieux permettant à Castres de glaner son troisième Brennus aux dépens de Grenoble, 14-11. Grenoble est entraîné par Jacques Fourou, à l'époque en guerre ouverte contre la Fédération. L'arbitre Daniel Salle reconnaîtra son erreur. En effet, le Grenoblois Frank Weber aplatit dans son but avant Whetton. En 1995, Castres résiste une mi-temps face à Toulouse, menant 16-6 à la mi-temps, avant de sombrer sous les coups de génie et de patte de Delo. Score final, 31-16 pour Toulouse. Pour un autre Toulousain, ce titre a une saveur particulière. À bientôt 35 ans, le capitaine rouge et noir, Albert Cigagna, dispute sa 7e finale, 14 ans après celle qu'il avait jouée avec Bagnères contre Narbonne en 1979. En 2013, à la surprise générale, Castres bat le Grand Toulon de Bernard Laporte, 19 à 14. Deux semaines auparavant, Toulon a battu Montferrand, 16 à 15, en finale de la Coupe d'Europe et avait éliminé Toulouse en demi-finale, 24 à 9. L'ouvreur toulonnais Wilkinson ratant fait à signaler 3 tentatives de tir au but sur 6. Le demi de mêlée sud-africain de Castres, Rico Cote, est l'auteur des 13 points castrés, dont un bel essai. Toulon prendra sa revanche en 2014. Score final de 18 à 10. Toulon remporte sa 2e Coupe d'Europe face aux Saracens et est donné grand favori. Wilkinson réalise pour son dernier match un sans faute dans les tirs au but. En 2018, Castres obtient son dernier titre en battant Montpellier, 29 à 13. Castres avait pourtant terminé 6e de la saison régulière. Le buteur argentin Benjamin Urdapilleta marque 19 points au pied. Montpellier prendra sa revanche en 2022 en dominant le CO 29 à 10, Castres ayant terminé premier de la saison régulière. Une des grandes figures castraises est Gérard Chollet, surnommé le patron. Il est né le 6 juin 1945 à Luxeuil-les-Bains, dans les Vosges. Il a été boxeur et parachutiste au 8e RPIMA de Castres. Il aura été sélectionné à 31 reprises en équipe de France, de 1975 à 1979, dont le Grand Chelem en 1977. Citons aussi Francis Ruy, né à Gimont le 23 février 1959. Il arrive à Castres en 1976, à l'âge de 17 ans, où il y restera 20 ans, jusqu'à sa retraite sportive. Il a été surnommé Monsieur Drop. Il est décédé des suites d'un accident de la route en 2001. Une tribune du stade porte son nom. Avec Francis Ruy, Romain Tellet, Rory Cocotte, Benjamin Urdapilleta, le CO entretient une forte tradition de buteur. Le club de Castres est bien accroché au top 14, contrairement à son rival départemental du Sporting Club Albi, actuellement pensionnaire de la Nationale ou 3e division. Castres est une commune urbaine qui compte 43 000 habitants. Elle est aussi la ville-centre de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, qui compte un peu plus de 80 000 habitants. La ville est traversée par la rivière Agoute, bordée de maisons qui abritaient au Moyen-Âge différents corps de métiers tels que tanneurs, teinturiers, parcheminiers, papetiers et tisserands. Castres est généralement connu comme le lieu de naissance de Jean Jaurès, célèbre responsable socialiste du tournant des 19e et 20e siècles. La commune l'est aussi pour son musée consacré au sculpteur et peintre Francisco Goya. La mort du vicomte Raymond Roger Trencavel, le 10 novembre 1209 à Carcassonne, est à l'origine du soulèvement général en Languedoc. Celui-ci part de Castres, où le peuple envahit le château, la tour Caudière, et s'empare des Français, les croisés venus du nord du royaume. En 1212, Simon de Montfort vient à Castres. Les bourgeois de la ville lui ouvrent les portes et il remplace par les croisés des prêtres de la ville et des alentours. Le chef croisé s'empare alors de Castres, en fait une seigneurie et place son fils Guy de Montfort-Castres à sa tête. Mais l'histoire de Castres est avant tout l'histoire d'une grande ville protestante du sud-ouest. Le capitaine de Lagrange est issu d'une très ancienne famille albigeoise dont la filiation remonte à 1317, époque où son ancêtre François de Bouffard était le premier magistrat de Castres. Il échappe, comme par miracle, au massacre de la Sainte-Barthélemy de la nuit du 24 août 1572 à Paris. 2000 à 3000 protestants sont tués, dont beaucoup de seigneurs provinciaux venus assister au mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois, célébré le 18 août. Le jeune Delagrange parvient miraculeusement à échapper au massacre. Il part à Sancerre, où il supporte les horreurs d'un siège célèbre, et parvient pourtant à s'échapper pour rejoindre le Midi, brûlant de vengeance. Maniant aussi bien la plume que l'épée, il est le chef de cette entreprise bien menée qui rend Castres aux Huguenots, juste 2 ans après la Saint-Barthélemy. Castres est alors une des plus grandes places protestantes en France méridionale. Henri III de Navarre, qui plus tard deviendra roi roi de France sous le nom d'Henri IV, entre dans Castres le 14 mars 1585, par la porte de l'Albinque. Il est en compagnie de grands chefs protestants, comme le duc de Sully, le prince de Condé et le vicomte de Turenne. Néanmoins, à la mort d'Henri IV, les Huguenots sont à nouveau victimes de vexations. En juin 1620, lorsque Louis XIII décide de marcher sur le Béarn, l'émotion des réformés est immense. Le duc Henri II de Rohan, descendant d'une noblesse bretonne convertie au protestantisme, reprend alors la lutte aux côtés de ses coreligionnaires dans tout le sud-ouest. Il organise la résistance dans le Midi et veut s'assurer du soutien de Castres et des personnages les plus influents de cette ville. On lui signale Jean de Bouffarmadiane, fils unique du héros de Castres, le capitaine de Lagrange. Il y aura trois rébellions huguenotes successives, 1620, 1625 et 1627. Le jeune huguenot, Jean de Bouffarmadiane, va devenir, comme premier consul de Castres d'abord, puis à l'armée comme chef d'une compagnie, l'un des plus fermes appuis de Rohan durant la Première Guerre. Après la seconde rébellion, Jean de Bouffarmadiane est envoyé par Rohan à Paris pour négocier la paix. Il est reçu par le roi Louis XIII le 5 juillet 1625. Les négociations durent 8 mois, de juin 1625 à mars 1626, en liaison constante avec le cardinal Richelieu. Ces négociations aboutissent au traité de Paris entre le roi Louis XIII et les Huguenots de La Rochelle le 5 février 1626, qui confirme la liberté religieuse mais limite les capacités de défense de cette ville avec la destruction d'un de ses forts et l'interdiction de maintenir une flotte militaire. Au lendemain du traité de Paris, Bouffarmadiane veut s'attacher à maintenir la paix naissante, mais se retrouve coincé entre deux fanatismes, celui de certains protestants voulant reprendre les armes et lancer une troisième guerre, et celui des catholiques du Parlement de Toulouse. Huguenot mais patriote, Madiane se refuse en particulier à toute alliance des protestants avec l'Espagne. Le duc de Rohan l'aura désormais pour adversaire. Quand le duc voudra reprendre Castres, le 20 octobre 1626, ses troupes devront abandonner la place, les habitants demeurant fidèles au modéré Bouffarmadiane. Cependant, 3 ans plus tard, en 1629, les protestants de Castres sont de nouveau expulsés aux limites de la ville, par ordre de Louis XIII, et Richelieu lui-même vient pour voir les puissantes fortifications de la ville démantelées. Après ces guerres religieuses, soldées en 1629 par la paix d'Alès, émerge une période d'expansion rapide. Les affaires et les activités commerciales traditionnelles sont rétablies, en particulier concernant la fourrure, le cuir et surtout les laines. La culture s'épanouit à nouveau avec la fondation de l'Académie de Castres en 1648. Castres bénéficie de la contre-réforme de l'Église catholique avec la construction de plusieurs couvents en ville. Castres est le siège de la chambre de l'édit du Parlement de Toulouse, une cour de justice spécialisée dans les affaires impliquant les protestants du Languedoc, une mesure de protection accordée par l'édit de Nantes. Cette cour attire un bon nombre d'affaires à Castres et entraîne la construction de plusieurs hôtels particuliers. En 1665, Castres compte 7000 habitants, 4000 catholiques et 3000 protestants. Vers 1760, quelques années après la célèbre affaire Calas à Toulouse, Castres se fait connaître dans tout le pays par l'affaire Sirvin. Pierre-Paul Sirvin et son épouse, tous deux protestants, sont injustement accusés d'avoir assassiné leur fille afin de l'empêcher de se convertir au catholicisme. Après s'être enfuis, ils sont jugés et condamnés à mort par contumace le 29 mars 1764, mais défendus par Voltaire, ils sont innocentés en 1771.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.